Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
Je n'ose pas vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, alors que tant de questions nous interrogent, au travers des mots qui ne nous étaient pas familiers. Asymptomatique, virus, pandémie, vaccin, masque, distanciation sociale, confinement, présentiel, quarantaine, distanciel, hydroxychloroquine, télétravail, Zoom. Et au sommet du podium, coronavirus. Ils se sont violemment introduits dans nos vies. Ils sont partout. Ces mots qui appartenaient aux dystopies littéraires sont devenus nos réalités quotidiennes. Le confinement a fermé des portes, mais ouvert des fenêtres. Celui du temps, le temps de lire. N'abdiquons pas, lisons. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Vous savez que je suis toujours en quête pour trouver des arguments qui vous pousseront à la lecture. Et c'est Yasmina Reza, dans une interview de ce début d'année, qui dit « Le fétichisme de la mémoire est un simulacre. » Un ordinateur a une mémoire, mais pas nous. Nous avons une mémoire émotionnelle. La construction du soi se fait par l'émotion. Là, c'est presque ce que diraient les recherches du psychologue expérimentaliste Handel Tulving. Mixons tout ça. Qu'est-ce que je lis dans notre soupe littéraire ? Rien ne vaut l'action de lire, que l'on réalise seul, sans la domination du groupe, sans l'adaptation d'un quelconque lobby qui nous fera un bon placement de produit, sans la sublimation de l'image filtrée. Il n'y a que la bonne émotion littéraire pour s'approprier une pensée philosophique, un événement historique, une vision futuriste. C'est vous et vous seul qui commettez l'acte de lire. C'est votre appropriation, une expérience par procuration, donc une connexion. Ne suis-je pas convaincante ? Non ? Alors tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. Je vous souhaite une très bonne année 2021 à l'écoute de votre radio rtvfm.net 102.2. Programme de cette première de l'année 2021, nous avons rencontré dans nos émissions précédentes une enseignante de français, un directeur de bibliothèque, un rappeur, un auteur de livres jeunesse, des acteurs, des libraires. Tous ont promu le rôle du livre. Il manquait à l'appel un métier essentiel puisqu'il s'est poursuivi en présentiel et distanciel. Qui tient lui aussi à bout de bras le livre, j'ai nommé le formateur ou la formatrice. Ils sont partout, dans tous les domaines, dans tous les milieux. Et au détour d'une rencontre, nous permettra de mettre en lumière ce métier et son utilisation de la littérature. École continue et avec elle, nos devoirs. Cas d'école présente ce mois-ci une pièce de théâtre au titre effrayant de « Juste la fin du monde ». Le livre, la BD du mois, je l'espère, vous apportera quelques conseils de lecture et une petite actualité pour finir. Voilà, pour les grandes lignes, au détour d'une rencontre, m'a conduit dans une institution française, la Garantie Jeune, qui est un droit ouvert qui s'adresse aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. La Garantie Jeune a pour objectif de favoriser l'insertion dans l'emploi. Ces jeunes sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Et c'est dans cet antre que j'ai rencontré le formateur, conseiller en insertion professionnelle, Monsieur Saphir Tamine, qui détient entre autres un diplôme d'université de formateur pour adultes et de grandes compétences annexes. L'entretien s'est réalisé dans son bureau, dans le strict respect des gestes barrières.
Au détour d'une rencontre.
La littérature est-elle un outil pour vous ?
La littérature dans la formation est très importante dans le sens où ça fait partie des fondamentaux, des basiques. C'est-à-dire que l'écriture, ça passe par la lecture. La communication, ça passe par la lecture. La compréhension, ça passe par la lecture. Donc c'est vraiment un incontournable. C'est malheureusement un peu utilisé ou peu mis en valeur, alors que c'est par là que tout passe, quoi. Si aujourd'hui on est en train de parler de livres ou de parler de littérature, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui ont écrit. C'est bête, mais voilà. Donc voilà l'importance dans la formation, c'est-à-dire que c'est un vecteur de transmission qui est très important et qui n'est pas négligé, je pense.
Utilisez-vous des supports littéraires ?
Alors, dans l'aide au développement personnel, la DVP, c'est un atelier qui permet aux jeunes, en fait, de pouvoir faire le point sur ses compétences et pouvoir développer justement un projet. Je leur donne un conte. Donc, je leur fais lire le conte « L'arbre d'amour et de sagesse ». C'est de Henri Gougaud. C'est un conte de 1992. C'est très simple. C'est un homme très, très, très malchanceux qui n'a pas confiance en lui, qui croit que la vie lui en veut. Qui décide d'aller voir Dieu pour lui demander pourquoi ça fonctionne pas et comment il ferait pour saisir sa chance. Et sur le chemin, il croise un tigre qui ne lui dit s'il te plaît, mange pas, tu vas te casser quelque chose, t'es tellement malchanceux que tu vas t'étouffer. Donc le tigre lui dit mais pourquoi tu dis ça? Il a dit ouais, j'ai pas de chance, je vais voir Dieu justement pour qu'il me dise comment faire. Donc le tigre il dit ok. Il passe sur la route, il voit un arbre totalement desséché, l'arbre il est presque mort. Donc il voit l'arbre, il dit qu'est-ce qui t'arrive? L'arbre dit je sais pas et tout, je pousse pas et tout, je sais pas pourquoi. Si tu vois Dieu, demande-lui pourquoi j'arrive pas à pousser. Et le tigre lui dit pourquoi, si tu vois Dieu, dis-lui pourquoi j'ai pas d'appétit. Ouais vas-y, moi je dois y aller et tout, je suis pressé, il est pressé, je dois y aller, je dois aller vers ma chance, je dois aller voir Dieu, je dois aller voir Dieu. Il arrive rencontre une femme, seule, super jolie et tout. Il dit qu'est-ce que tu fais seul et tout? Il a dit j'arrive pas à me marier et tout, je trouve pas quelqu'un. Tu vas où toi? Il dit moi je vais voir Dieu parce que j'ai pas de chance, je vais voir où est ma chance. Et la femme elle dit si tu vois Dieu, demande-lui pourquoi j'arrive pas à me marier. Donc, lui il arrive à Dieu, donc il arrive dans une caverne et tout. Et du coup il demande à Dieu pourquoi j'y arrive pas? Elle est où ma chance et tout? Dieu lui dit faut que tu saisisses ta chance. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il croise l'arbre, la femme, elle lui dit viens on se marie et tout ensemble. Il dit non, je dois saisir ma chance, désolé. Il revient sur le chemin inverse. Donc il croise l'arbre, il lui dit alors et tout, il t'a dit quoi? Et ben il m'a dit que en fait en dessous de toi il y a un trésor qui t'empêche de pousser, avec plein de pièces d'or et tout. L'autre il dit vas-y déterre-le, il dit non, je dois aller vers ma chance. Et ensuite il croise le tigre, il lui dit alors il t'a dit quoi? Ben il m'a dit qu'en fait tu retrouveras l'appétit, mais tu retrouveras l'appétit que si tu mangeais le plus sot, le plus bête de la planète. Et le mec il lui dit mais toi tu viens d'où là? Il dit ben j'ai rencontré une femme qui voulait se marier, je lui ai dit non. J'ai rencontré un arbre qui voulait que je prenne un trésor, je lui ai dit non. Et là, je suis avec toi. Il dit, mais en fait, c'est toi que je vais manger. T'es le plus haut. Du coup, il le bouffe. Voilà, je leur fais lire ça. Après, je leur demande de me lister pourquoi il s'est fait bouffer. Pourquoi l'homme il s'est fait bouffer. Et voilà, les jeunes ils me disent, il a pas su saisir ses opportunités. Il a été trop pressé. Il a été égocentrique. Il a tout remis à demain. Il a pas pris le temps d'eux. Donc voilà, ça leur permet à travers un conte, j'essaye de le retranscrire, de le contextualiser dans ce que je fais, c'est-à-dire l'insertion professionnelle. C'est plus parlant, tu parles d'un compte, que si je leur parle des chiffres avec des acronymes et avec des choses que même moi, qui me rendent fou, qui me fantasme, j'allais dire.
Y a-t-il des auteurs que vous utilisez?
Alors non, honnêtement, j'essaye vraiment de vulgariser au maximum, c'est-à-dire que moi j'ai une formation littéraire, j'ai un bac littéraire, je lis des choses, je fais des ateliers d'écriture, je suis dans la création d'objets ou de projets artistiques, etc. Mais j'essaie vraiment de vulgariser dans le sens où j'essaie juste de mettre le pied à l'étrier. Et je pense que si je donne des auteurs, ou si je donne des titres, bien entendu que ça, au niveau où on est là, vraiment dans la culture, c'est la lecture, il faut être éduqué. J'allais te dire, c'est comme le vin, mais tu vois, c'est ça. Tu l'aimes pas dès le premier goût. C'est pas comme la télé. La télé, tu l'allumes, tu l'aimes. La lecture, faut l'aimer. Ça s'apprend. Justement, j'essaie justement de la vulgariser. Si je raconte l'histoire, c'est peut-être mieux que la lise. C'est pour ça que ça existe aujourd'hui. Heureusement qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui se cultivent grâce au podcast. C'est de la lecture. Hein. Moi, je sais que les chaînes d'histoire sur YouTube sont magnifiques. Les chaînes d'histoire comme Nota Bene, etc., je me régale. Alors que peut-être que j'aurais pas pu ouvrir un livre à l'époque. Et moi, non, je donne pas d'auteur. Honnêtement, j'essaie de la vulgariser et tout. Je pense que j'ai pas le public adapté à la référence d'auteur. Mais par contre, si on me demande, bien entendu, oui. Je donne pas. Je l'utilise comme support. Je l'utilise dans la transmission. Je l'utilise moi aussi. Je lis les livres qui parlent de transmission, qui parlent de comment développer les compétences, etc., qui sont en rapport avec mon métier. Mais par contre, je ne source pas.
La littérature vous a-t-elle construit?
Si je devais parler de moi, ça m'a construit dans le sens où ça m'a ouvert des portes en fait de lire. J'étais au collège Jean Brunet, donc au collège Jean Brunet c'était pas le collège le plus littéraire d'Avignon, c'était dans un quartier tout ça, autour d'un quartier, c'est un très bon collège d'ailleurs. Et en fait voilà, j'étais en français et du coup je lisais des livres. Et en fait le fait de lire des livres ça m'a permis de développer mon imagination. Du coup j'ai fait du théâtre, et ensuite en faisant du théâtre j'ai pu demander une seconde de théâtre. Du coup, ça m'a permis d'aller en ville au lycée. Du coup, je me suis retrouvé en littéraire. Du coup, j'ai fait un bac littéraire. Après, j'ai fait langue étrangère appliquée juste après. Mais dans le sens où, je ne vais pas dire que le littéraire m'a sauvé, mais ma culture littéraire m'a permis de tirer mon épingle du jeu dans ma formation professionnelle. C'est-à-dire que le fait d'avoir lu des livres, même là, en fait, d'avoir fait du théâtre, j'allais te dire, c'est le chat qui se mord la queue, parce que le fait de faire du théâtre, ça m'a aussi poussé vers des auteurs. J'aurais jamais lu Cyrano de Bergerac. Edmond de Ronstan, pour moi, c'était un truc de métro. Donc, j'aurais jamais lu des auteurs comme ça, je me serais pas intéressé à ça. Je serais pas allé voir des pièces au Festival d'Avignon. Quand je vais voir des pièces au Festival d'Avignon, je me retrouve. Il n'y a pas trop de public varié. C'est dommage, c'est toujours à peu près le même type de public, alors qu'il y a une multitude de pièces, une multitude de thèmes abordés. Donc, dans ce sens-là, oui, je pense que ça a changé. La littérature, ça a changé. Dans le sens où j'ai pu construire mon imaginaire. Et après, ce que je fais aujourd'hui, c'est, on va dire que c'est une empreinte de littérature. Quand je vais faire des ateliers d'écriture, quand je vais faire de la direction artistique sur des clips, quand je vais faire de la direction artistique en studio, quand je vais rimer, je vais aider à trouver des thèmes, etc. Bah bien sûr que tout ce que tu as lu et toutes les références que tu as, bah tu les retrouves dans de l'écriture.
Alors, monsieur Tamine, vous n'êtes pas seulement formateur et conseiller en insertion professionnelle ?
Je suis un Bob du Tour de France.
C'est quoi, Bob ?
Avec plein de visières de partout. Non, je suis multicasquette malgré moi. C'est pas quelque chose que j'ai voulu, mais j'ai toujours aimé faire plein de choses. Mais au final, ça se rejoint. Je suis éducateur sportif, je suis formateur, je suis conseiller à la Garantie Jeune. Je fais des ateliers d'écriture. Je suis en studio, des fois avec des jeunes dans la direction artistique. Je crée des clips. Le vecteur commun, c'est la transmission. C'est au final, oui. Si on me demande ce que je fais, je vais dire mon activité principale, que ce soit dans le sport, dans l'insertion professionnelle, dans la culture, je suis dans la transmission.
Donc, la littérature s'insère dans la formation comme transmetteur ?
Bien sûr, mais la littérature, c'est totalement de la transmission. C'est-à-dire que là, on parle de littérature, mais on peut parler même de... Dans la littérature, il y a des essais, des romans, des essais historiques, il y a des manifestes. Et ça, c'est de la transmission. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par l'histoire. Je crois que j'ai même lu plus de biographies que de romans. Mais des trucs bêtes, hein, la biographie de Bernard Tapie, comme celle de Thierry Roland, comme celle de Raymond Domenech, comme le manifeste de Édouard Plenel, on peut lire plusieurs choses.
Y a-t-il un livre que vous conseillez pour nos jeunes débutants en littérature ?
Alors, il y a deux livres. Mon bel oranger, de Marco de Vasconcelos, c'est un Brésilien. Donc, c'est un récit autobiographique sur un jeune dans les favelas au Brésil. Donc, c'est très bien écrit, c'est assez simple à lire, c'est très imagé. Et moi, personnellement, quand j'étais petit, ça me connectait avec le Brésil. C'est-à-dire que je ne connaissais pas et ça me donnait envie. C'est une copine à moi qui le lisait et qui me l'a prêté et je l'ai lu. Et deuxième, Le Gon du Chaba de Azouz Begag. Bon, moi, j'ai des origines algériennes. J'ai trouvé ça rigolo. C'est un livre très drôle. C'est un livre très émouvant aussi. Et c'est un livre qui traite de l'intégration en France, d'une famille algérienne qui s'intègre en France, mais pas de manière dramatique ou politique ou quoi. Ça me rappelle un peu La vie est belle de Bellini. C'est cette façon de dédramatiser, de rendre drôle une situation difficile. Donc ça aurait pu être un livre dramatique, très dur à lire et tout. Mais au final, non, c'est, je le conseille. C'est très drôle. Il y a des situations grotesques, comme la situation de l'Aïd avec le mouton, le choc des cultures entre une vieille qui voit les choses qui se passent en France et tout. Franchement, c'est très très drôle.
Un jeune peut-il le lire aisément ?
Bah oui, bien sûr. Oui, ben je pense qu'il peut s'identifier déjà. Donc l'identification, c'est important pour un jeune. Nous, quand on est adulte, on prend du recul, on peut rentrer dans la peau de différents personnages. Quand on est jeune, quand on est enfant, on rentre pas dans la peau d'un... Très plus difficilement dans la peau de différents personnages. Il ne pourra pas rentrer dans la peau d'un astronaute de 78 ans. Par contre, un jeune défavorisé du Brésil ou de la banlieue lyonnaise, moi, ça m'a parlé. Donc ça parle. Et voilà, donc je pense que c'est des deux livres que je conseillerais... S'il y a un jeune, s'il y a même des gens qui nous écoutent, qui ont du mal à se mettre à la lecture, pour les élèves de 4e, 3e, 5e, etc. Ouais, Mon bel oranger et Le Gon du Chaba. Franchement, c'est deux livres très faciles à lire, très drôles. Voilà.
Monsieur Tamine, votre livre phare, quel est-il ?
Moi, Cyrano.
Vraiment ?
Ah ouais, c'est magnifique, Cyrano. Il est incroyable. C'est un incroyable, c'est magnifique. C'est un chevalier, il est là, il mange du poulet, il se bat. il arrive à draguer des meufs, il a un gros nez, mais c'est pas grave. Honnêtement, Cyrano, quand tu lis Cyrano, quand tu vois un peu ce qui se passe, tu vois, dans ta vie, ça te fait rire parce que c'est toujours pareil. Sauf que c'est une ancienne époque. Mais voilà, c'est une espèce de chevalier qui a toujours le bon mot, tout ça. Il s'est coursé par tout le monde, personne n'arrive à l'attraper. Cette espèce de personnage-là, là, j'ai bien aimé.
Mais c'est du théâtre?
Ouais, mais la tirade du nez et tout, c'est incroyable. Moi qui fais des ateliers d'écriture, tout ça et tout, c'est du rap. Non, mais c'est du rap. La tirade du nez, c'est du rap. Et c'est que des punchlines. Bon, après, c'est des punchlines, c'est pas des punchlines d'aujourd'hui. Mais voilà, mais ça, à la fin, je touche. C'est des trucs que tu peux retrouver aujourd'hui dans des chansons. D'ailleurs, il y a un rappeur qui s'en sert aussi, c'est Fianzo. Si jamais vous voulez aller voir, il y a une chanson qui s'appelle Lettre jeune rappeur. Et en fait, dans sa chanson, il a repris, on va dire, au niveau des vers, il a repris un peu la tirade du nez. Et à la fin, il fait je touche. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Mais je pense que personne n'a compris. J'étais le seul qui avait compris. Voilà. Et à la fin, il a dit je touche. Ah, bien. Ouais, ça me faisait plaisir. En fait, que j'étais connecté, j'ai dit, ah, putain, Cyrano, toi aussi, tu touches.
La littérature, ça connecte.
Voilà. En fait, moi, j'aimerais bien que voilà, les gens qui se disent qu'on peut lire de tout, tout le monde peut lire de tout et on peut être intéressé à tout. Voilà. Si peut-être aujourd'hui, il y a des mecs qui vont m'écouter ou même je vais raconter que j'ai lu Cyrano et que mon personnage Cyrano, peut-être que ça va interloquer plus d'un et peut-être me dire, ouais, mais c'est possible, hein, vous êtes bien quand même. Peut-être on va essayer.
Oui.
Mais voilà, c'est cool.
Bah oui, c'est ça l'objectif.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, Cyrano, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Après, moi, les pièces de théâtre, j'aimais bien. Les pièces de théâtre, je te parle, tu vois, les vieilles pièces de théâtre. Hein. Les Molières, tout ce qui est Cyrano, tout ça. Parce que peut-être que c'est plus vivant dans la façon d'écrire. C'est des dialogues. Donc, c'est des tirades. Moi, comme je t'ai dit, je suis un peu dans la mise en scène et tout. Du coup, quand je ferme les yeux, j'arrive à l'imaginer. J'arrive à le mettre plus facilement en action. Il y a des gens qui ont des cerveaux qui arriveront plutôt sur un roman, essayer de se développer et tout ça. Moi, la mise en action rapide, ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec mon... Ouais, c'est quelque chose qui fonctionne avec mon cerveau. Voilà.
Alors, votre conclusion sur la littérature, la formation, l'accompagnement social, quel lien?
Si j'ai un conseil à donner, oui. Je pense qu'il faut reconnecter les jeunes avec l'écriture. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médias. On a la chance d'avoir plein de supports, mais que malheureusement, l'écriture... a été une victime collatérale de ces progrès. Et je pense qu'il faut aujourd'hui reconnecter les jeunes avec l'écriture. Donc les reconnecter, ça ne veut pas dire leur donner le rouge et le noir et leur faire lire directement. C'est pas ça. C'est justement leur apprendre à écrire. Quand je dis écrire, c'est pas écrire leur nom. Leur apprendre à écrire une histoire. Leur apprendre à raconter une histoire. Et une fois qu'ils ont raconté leur histoire, ils ont envie de la lire, de la dire. Et voilà, c'est comme ça, faut faire des ateliers pour les reconnecter, faut essayer de leur parler aux jeunes. Bon, c'est un peu conceptuel, leur parler avec l'écriture, mais je pense que sur certains livres, il y a des livres qui parlent. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en citer un qui est magnifique, c'est Fight Club. Après mon adolescence, ça a été un des livres, c'est le genre de livre, quand tu vois le film, tu t'es dégoûté en fait. Ben en fait c'était pareil, c'est un livre sur la surconsommation, etc. Et tout, ça tombait bien. T'as des livres des fois qui parlent à une époque, qui parlent. Faut savoir les attirer, les jeunes, faut savoir les tenir. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Faut les reconnecter, surtout et pas hésiter de faire le parallèle entre les films et les livres. Oui. Je sais que moi ça marchait beaucoup quand j'étais petit. J'avais vu Le Clown de Stephen King, ça.
Oui.
Et on m'avait dit que voilà ça, et on m'avait dit que le livre faisait plus peur. Et qui était beaucoup plus hard. Exactement, et du coup il y a des agressions. Il se passe des choses beaucoup plus hard dans le livre, donc quand t'es petit t'es content.
Faut savoir jouer avec les limites de l'adaptation cinématographique pour encourager à la lecture.
Voilà, lisez. Mais voilà, donc du coup oui, je pense faire le lien entre les adaptations et ça c'est une bonne idée. De faire le lien entre les adaptations et les livres. Parce que ça permet justement aux jeunes de pas d'être en terrain conquis, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer.
Faire sa propre interprétation.
Exactement. C'est-à-dire quand tu imagines une belle femme, c'est pas toi qui as fait le casting. Donc quand tu fermes les yeux, toi tu imagines la belle femme. Oui. Le clown, quand il te dit il est terrifiant, toi tu vas fermer les yeux et tu vas chercher ta peur la plus terrifiante en toi.
Oui.
T'as pas fait le casting. Quand ils te mettent un vieux américain avec trois cheveux, tu vois, ça te trouve, il te fait pas peur. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que la lecture c'est important.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Merci.
Mais je vous en prie. Bonne année, mangez des pommes.
Je vous liste les œuvres citées par Monsieur Tamine. Le livre de contes, L'arbre d'amour et de sagesse de l'écrivain Henri Gougaud, Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand, Le Gonne de Chaba d'Azouz Begag, Fight Club du journaliste écrivain américain Chuck pas La Nuque, adapté au cinéma par David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton, Mon bel oranger de José Moreau de Vasconcelos, avec ça, de quoi se commencer une bien jolie petite bibliothèque garantie totalement jeune. Pour être totalement jeune, votre chronique scolaire qui reprend chaque mois un livre imposé par l'éducation nationale pour les bacs généraux et technologiques.
La chronique cas d'école.
C'est la nouveauté du programme imposé par l'éducation nationale 2020-2021. Une pièce de théâtre contemporaine, un thème intemporel. La pièce de Jean-Luc Lagarce et son texte « Juste la fin du monde ». Inquiétant ? Scénario d'un film catastrophe ? Pas du tout. Ou si, complètement, si l'on perçoit la famille comme un écueil, si la solitude face à la mort est une tragédie, si l'incommunicabilité est une torture, alors oui, nous naviguons en pleine tragédie humaine. Un homme revient dans sa famille pour annoncer sa mort imminente, mais ce retour déclenche un règlement de compte familial. Il n'arrive pas à communiquer, il ne dit rien, et il repart seul face à sa mort. Dans cet opus de quelques 75 pages, vous n'aurez pas d'action fracassante, pas de rapport historique, pas de paysage, pas de ville. Juste une maison, une mère, un frère cadet, une belle-sœur, une jeune sœur, un presque huis clos, une écriture hachée d'une absolue simplicité. Mais alors, les thèmes, me direz-vous ? La temporalité, le rôle de l'aîné au sein d'une fratrie, l'absence du père, la violence de la rancœur familiale, l'incommunicabilité. Xavier Dolan a réalisé une adaptation cinématographique avec Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard et Gaspard Ulliel. Et moi, je vous offre la lecture du prologue lu par le comédien Jean-Philippe Raymond. Bonne écoute.
Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après. Comme on ose bouger parfois à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit, ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir. Revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer. Lentement, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider. Me donner, et donner aux autres et à eux tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître.
Belle lecture. Pas vraiment dans l'ambiance de Noël. Jean-Luc Lagarce, au moment de l'écriture de la pièce, se sait atteint du sida. Nous sommes dans les années 90. Y a-t-il un lien avec sa vie ? Rien ne l'affirme. Mais combien d'absences de mots sont responsables de colère ? je vous laisse méditer cette question. Après le petit bac blanc, deux propositions de lecture, des incontournables de l'actualité.
Un livre, une BD, la pièce du mois.
Un fidèle auditeur s'est proposé de tenir séance pour nous dire le plus grand bien des belles planches de Mathieu Bablé. Mathieu Bablé qui m'avait déjà séduit avec son Shangri-La, paru en septembre 2016 sous le label 619. Écoutons François.
Voici un petit résumé de la BD de Mathieu Bablé, Carbone et Silicium. Il s'agit de la création de deux robots, on pourrait dire la naissance, par une équipe de chercheurs. Ils sont censés être hommes et femmes, noirs et blancs. Dès leur mise en fonction, ils possèdent, grâce à une banque de données portative, toutes les connaissances accumulées par l'homme au fil des siècles. Ils sont immédiatement plongés dans la dure réalité. À cet instant, ils ne sont que deux prototypes, mais devraient, après une fabrication en série, envahir la planète afin de gérer toutes les tâches imposées par les humains. Carbone et silicium, c'est leur nom, sont liés de manière très forte. Ils découvrent le monde et se retrouvent vite séparés. Carbone reste près de sa créatrice. Cette dernière la considère comme sa fille idéalisée. Silicium part dans une recherche spirituelle qui le pousse à découvrir le monde dans son intégralité. Ils sont impuissants face à la misère de la condition humaine et de tout ce que cela entraîne de malheur, de tyrannie et de destruction de la Terre. Les robots et androïdes sont de plus en plus nombreux. Carbone et silicium se retrouvent. Ils essayent de refonder une nouvelle société, plus humaine que celle des véritables humains. Humains qui sont toujours présents. Une société faite d'échanges et de partage dans une connexion généralisée. L'homme est-il le nuisible? Mais l'espoir est là. Un nouvel avenir, l'immortalité de ces êtres et leur super connaissance les mènera peut-être vers un monde meilleur.
J'ai hésité pour la présentation du livre du mois. Pas de première parution 2020 ni 2021. Néanmoins, déprimé. Alors, dans mon beau chapeau se trouve Alice Zéniter et son L'art de perdre, l'interrogation identitaire d'une petite fille de grand-père kabyle, considérée comme harki, qui passa dans des camps de transit qui nous rappellent des pans de l'histoire française peu glorieux. Mais mon choix s'est porté sur un grand coup de cœur, un incontournable, qui fait écho au mouvement Black Lives Matter, l'écrivain Colson Whitehead, qui a tout de même remporté deux fois le Pulitzer, le Grand Prix Pulitzer, qui est une version moins inique que notre prix Goncourt bien français. Alors, jetez-vous sur Underground Railroad, titre qui n'est pas traduit dans sa version française. Vous avez bien tous compris qu'il s'agit du chemin de fer souterrain. Et pour cause, d'une métaphore des abolitionnistes américains, Colson Whitehead en fait un roman fiction historique très poignant. Petit retour historique en 1820. Démarre un mouvement contre l'esclavage des Noirs aux États-Unis d'Amérique. On les nomme les abolitionnistes. Ce mouvement se situe majoritairement loin des plantations de coton qui fructifient grâce à la manne salariale gratuite qui permet l'esclavage et qu'autorise la Constitution américaine. Éclate en 1861 une guerre civile qui durera 4 ans entre la Confédération qui encourage l'esclavagisme et ses exactions, les sudistes, et l'Union, dirigée par Abraham Lincoln, qui s'oppose fermement à l'esclavage, les nordistes. On la connaît l'issue de la guerre de sécession. Abraham Lincoln met fin et fait appliquer le droit fondamental de la Déclaration des droits de l'homme américaine. Mais voilà, l'Amérique doit se construire sur ce terreau souillé. Il est bien là ce mal profond qui perdure. Et Colson Whitehead, de sa plume contemporaine, réalise un roman historico-fictif sur cette période tragique de l'histoire américaine. C'est haletant, émouvant, et ça réveille une colère sourde en nous. pourquoi toute cette inhumanité? Ça laisse à réfléchir. On comprend que ces livres aient eu un tel succès aux États-Unis d'Amérique. Pour 8,20 € au livre de poche, dans votre librairie préférée, ou en lecture gratuite dans votre bibliothèque.
L'actualité littéraire.
Je vous encourage à écouter les radiophoniques de la compagnie Mahaloum via le site internet de la bibliothèque de Lingambertine de Carpentras. Vous y retrouverez Sans famille d'Hector Malo, le portrait ovale d'Edgar Allan Poe, la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa, avec en accompagnement musical la belle harpe de Mathilde Giraud. L'émission se termine. Je vous souhaite de bonnes lectures. Au chaud. N'hésitez pas à nous contacter via le site de rtvfm.net. On se retrouve le mois prochain dans votre émission Mots de passe. À bientôt.